VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Bamako, 17h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. Au Burundi, tentative d'assassinat du responsable de la communication présidentielle Willy Nyamitwe lundi soir alors qu'il rentrait chez lui à Bujumbura, la capitale. Il a été blessé au bras selon un cadre de la présidence. Un de ses gardes du corps a été abattu et un autre blessé. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Dans un point de presse ce matin, la police fait état d'une tentative d'assassinat de Willy Nyamitwe, porte-parole du président burundais, lundi vers 21h30, alors qu'il se rendait à sa résidence située dans le quartier de Kajaga, à l'ouest de Bujumbura. Un des gardes de Willy Nyamitwe, appelé Gasongo, a été tué sur le champ, tandis qu'un autre policier a été blessé, conduit à l'hôpital, Willy Nyamitwe. Il s'est dit attristé dans un tweet par la mort du policier. Pour le porte-parole de la police, l'ennemi est le même. Ce sont des criminels basés à Kigali qui attaquent et commet des assassinats ciblés. Pierre Mouriquier déclare que la police connaît ceux qui sont derrière ces attaques et qui le commanditent depuis Kigali. Le porte-parole promet à la population des poursuites et arrestations pour le démantèlement complet du réseau dans le but de protéger la population et les autorités. Depuis fin avril 2015, le Burundi est plongé dans une crise qui a déjà fait plus de 500 morts, poussant aussi à l'exil plus de 300 000 personnes selon les Nations Unies. Cette tentative d'assassinat de Willy Nyamitwe est la première depuis plusieurs mois où une accalmie était remarquée à Bujumbura et dans d'autres localités du pays. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Alain Aimé Nyamitwe, frère de Willy Nyamitwe et ministre des Relations extérieures et de la coopération internationale du Burundi, a dénoncé sur Twitter une nouvelle vaine tentative de perturber les institutions républicaines, dit-il. Selon le porte-parole de la police, Pierre Nkoloukiye, les forces de l'ordre étaient sur la piste du commando chargé de tuer Willy Nyamitwe et avaient déjà arrêté deux militaires, le colonel Dieudonné Douchimagizé alias Gangi et le caporal Jean-Claude Ndouimana avant la tentative d'assassinat, mais sans pouvoir empêcher l'attaque. Le caporal Ndouimana a avoué qu'ils avaient la mission d'assassiner Willy Nyamitwe, affirme Pierre Nkoloukiye. RCA, la France a exhorté aujourd'hui les différents groupes armés dans le pays à cesser toute violence et à rejoindre le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement mis au point par les autorités centrafricaines. Un appel lancé ce mardi par le porte-parole du Quai d'Orsay, Romain Nadal, qui serait lié aux récentes violences ayant fait 85 morts dans la région de Bria, dans le centre de la RCA. Ces affrontements, les 21 et 22 novembre, entre groupes armés de l'ex-rébellion Séléka, se sont soldés par 85 morts, essentiellement des peuls. Toujours concernant la Centrafrique, face à l'urgence humanitaire en RCA, l'ONU a exhorté les pays donateurs hier à verser près de 400 millions de dollars pour couvrir les besoins en 2017. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Virginie Bekwa, ministre centrafricaine des Affaires sociales et de la Réconciliation nationale, a fait le déplacement jusqu'à Genève. Avec Fabrizio Hochschild, le coordinateur de l'action humanitaire pour la Centrafrique, elle a plaidé pour que les pays donateurs rassemblent près de 400 millions de dollars afin de venir en aide à 1,6 million de Centrafricains l'an prochain. Lors d'une conférence de presse, M. Hochschild a insisté sur l'urgence humanitaire de la RCA, plombée par les conflits et des décennies de pauvreté chronique. Cette somme s'ajoutera aux 2,2 milliards de dollars promis par des donateurs internationaux au début du mois à Bruxelles, en soutien au programme quinquennal national de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique. Selon les données de l'ONU, la moitié de la population souffre d'insécurité alimentaire et 40% des enfants de moins de 3 ans sont sous-alimentés de façon chronique. Conséquence, un enfant sur 5 risque de mourir avant son 5e anniversaire.
Un sommet régional sur la situation politique et sécuritaire dans une dizaine de pays d'Afrique centrale se tient mercredi à Libreville au Gabon à l'initiative de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC. Au programme de ce sommet extraordinaire figurent notamment la lutte contre les djihadistes de Boko Haram au Cameroun et au Tchad, les affrontements entre groupes armés en Centrafrique ainsi que l'instabilité politique en RDC et au Burundi. La situation et les tensions post-électorales au Gabon, au Congo-Brazzaville et au Tchad devraient aussi être évoquées, a indiqué le secrétaire général de la CEAC, Ahmad Alami, cité par plusieurs sites d'information africains. Et en Ouganda, la police ougandaise annonce avoir retrouvé 25 corps supplémentaires dans la région de Kasese, dans l'ouest du pays, où les gardes d'un souverain local et les forces de sécurité se sont affrontés ce week-end. Des combats dont le bilan est désormais d'au moins 87 morts.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Politique en Gambie, le chef de l'État gambien Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, sera confronté pour la première fois à un véritable défi dans les urnes lors de l'élection présidentielle de jeudi face à une opposition qui fait bloc autour de son candidat. Les trois postulants, Yahya Jammeh, Adama Barrow, désigné par cette partie d'opposition, et Mama Kandé, ancien député du parti au pouvoir qui se présente sous les couleurs d'une nouvelle formation, sont tous âgés de 51 ans. Ils vont terminer leur campagne électorale ce mardi. Jeudi, environ 890 000 Gambiens sur les quelques 2 millions d'habitants du pays sont appelés à choisir leur nouveau président pour 5 ans au cours d'un scrutin à un tour. La Gambie a d'ailleurs trouvé sa propre solution pour faire face à la fraude et à l'analphabétisme pendant le scrutin. Le vote avec des billes, un système unique au monde. Au moment du vote, les électeurs reçoivent une bille qui doit glisser dans une des urnes, un petit bidon cylindrique d'une soixantaine de centimètres de haut. Chaque fois qu'il y a vote, une clochette sonne, indiquant que l'électeur a accompli son devoir électoral. En Côte d'Ivoire, la cour d'assises d'Abidjan, qui juge l'ex-première dame Simone Gbagbo pour crime contre l'humanité, va établir aujourd'hui un calendrier de passage de personnalités ivoiriennes. C'était depuis plusieurs semaines la pomme de discorde entre l'accusation et la défense, Nanit Salani.
Le président de la Cour, Boaki Kouadio, va proposer un nouveau calendrier permettant de citer des personnalités ivoiriennes. La défense exigeait la présence de Guillaume Soro, ancien chef de la rébellion et président de l'Assemblée nationale, Jeannot Kouadio Aoussou, ancien premier ministre, Charles Kofi Dibi, ancien ministre et bien d'autres personnalités. Cependant, rien ne prouve qu'elles feront le déplacement. Après une suspension de 2 semaines, le procès a pu reprendre hier grâce à la médiation de Maître Abeyao, bâtonnier de l'Ordre des avocats. Madame Gbagbo est jugée depuis le 31 mai pour crime contre l'humanité. Elle a déjà été condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État.
En Afrique du Sud, l'ANC au pouvoir a rejeté l'appel de plusieurs de ses membres à la démission du chef de l'État sud-africain Jacob Zuma. Embourbé dans plusieurs scandales de corruption, c'est ce qu'a annoncé le secrétaire général de l'ANC, Gwede Mantashe, ce mardi à Johannesburg, après la réunion du parti de samedi à lundi. Le plus grand danger pour l'unité de l'ANC est d'engager un combat les uns contre les autres, a souligné M. Mantashe. Le parti ne doit désigner qu'en décembre 2017 celui ou celle qui succédera à sa tête à M. Zuma, dont le second mandat présidentiel expire après les élections générales de 2019. Nouvelle monnaie sous forme de billets d'obligation au Zimbabwe. L'initiative répond au souci de résoudre le problème de manque de liquidité, mais cette monnaie suscite de vives préoccupations dans les milieux d'affaires comme chez les gens ordinaires. Erdi Kabeya, directeur général de la plateforme de Student Hub, une entreprise éducative basée en Afrique du Sud, pense que le changement de monnaie au Zimbabwe est une entreprise vaine.
Déjà au Zimbabwe, la monnaie est devenant de plus en plus rare. Ça pousse les gens à trouver des moyens, même criminels, de pouvoir obtenir la monnaie. Parce qu'il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire avec la nouvelle monnaie qu'ils ont introduite. Et le Zimbabwe, il n'y a déjà rien de produit localement. Tout dépend des imports qu'ils font à partir de l'étranger. Ça devient difficile. De l'époque où il y avait le dollar zimbabwéen qui a obtenu un taux d'inflation de 100 000%, un record mondial déjà. À maintenant, il n'y a rien qui a changé. L'économie est toujours au plus bas et la politique monétaire est quasiment la même. Il y aura l'inflation et ils vont retourner au dollar parce qu'il n'y a vraiment pas de vision ou de plan pour sortir le pays du chaos économique. Donc la même situation va se répéter.
Erdi Kabeya, directeur général de la plateforme de Student Hub, une entreprise éducative basée au Cap en Afrique du Sud. Et pour terminer, audience publique ce mardi au Congrès américain sur la République démocratique du Congo et plus précisément devant la Commission des droits de l'homme. Il sera question de démocratie pour les panélistes qui s'exprimeront devant les représentants du peuple américain. Alors que la date du 19 décembre, fin du mandat du président congolais Joseph Kabila approche à Kinshasa. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.